bonjour à toutes et à tous. Nous retrouvons comme tous les jeudis pour notre émission Questions d'actualité. Et aujourd'hui, voilà, c'est notre première CAD Média de l'année. Donc on vous souhaite une très bonne année à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Et aujourd'hui, cette CAD Média, donc avec l'Écho des collines, avec Jacques Brunet, avec Dominique Andrieux pour Sud-Ouest. Nous excusons notre ami Joël Aubert qui est à Paris, qui n'a pas pu être là aujourd'hui présent avec nous. Mais peut-être que Nicolas César va nous rejoindre en cours d'émission. Voilà, pour acquis.fr et bien sûr Odo Radio. Donc cette première CAD Média sera consacrée, on va dire, à l'explication sur un appel à projet auquel Odo Radio a répondu cet été, un appel à projet qui émane de la région. Et cet appel à projet concerne la prévention et la lutte contre les discriminations dans la formation professionnelle et l'apprentissage. Et pour vous expliquer ce lancement qui couvrira toute l'année 2011 avec ce projet, nous avons comme invité donc Catherine Vessy, qui est la vice-présidente du conseil régional d'Aquitaine en charge de la formation professionnelle, aussi adjointe au maire de Lormont. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Nous avons Bruno Sibé, qui est chargé de mission à la formation professionnelle à la région Aquitaine. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Nous avons Jacques Blouin, qui est directeur de Haute-Garonne Développement.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Et nous avons Marina Cosset, directrice du PLI. Alors le PLI, hein, on le rappelle, c'est le plan local pour l'insertion et pour l'emploi. Directrice du PLI Haute-Garonne. Bonsoir Marina.
Bonsoir.
Voilà, donc avec vous ce soir, justement, on va essayer de détailler un peu en quoi consiste cet appel à projet et voir évidemment pourquoi la région se donne comme une de ses priorités aussi la lutte contre la discrimination. Donc cet appel à projet vise à faciliter l'appropriation d'une nouvelle culture, de nouvelles pratiques pour l'accès de toutes et de tous dans les dispositifs de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc en réalité, à travers plusieurs axes, donc il faudra à la fois favoriser l'appropriation d'une culture de non-discrimination au sein des organismes de formation, CFA, prescripteurs et l'évolution de leurs pratiques professionnelles, mais aussi favoriser la diffusion d'une culture de non-discrimination chez les chefs d'entreprise et leurs collaborateurs, notamment dans les domaines des TPE-PME. Aussi favoriser la diffusion d'une culture de non-discrimination chez les professionnels des secteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et aussi en agissant directement auprès de groupes cibles particulièrement pertinents au regard des discriminations et des publics de la compétence régionale. Et enfin, pour finir, en agissant aussi directement auprès des publics particulièrement discriminés. Donc, Odo Radio a constitué un projet pour une année, donc avec 50 programmes hebdomadaires. Il y aura 4 rendez-vous forts, on va dire, au cours de l'année, un par trimestre. Ça commence aujourd'hui, donc avec cette thématique qui nous permet de présenter l'appel à projet annuel. Mais la deuxième émission au deuxième trimestre concernera l'handicap et la formation professionnelle. La troisième, les 18 motifs de discrimination inscrits dans la loi. Et la quatrième, l'égalité homme-femme dans la formation professionnelle et les évolutions de carrière. Donc, entre-temps, chaque semaine, nous aurons un contenu spécifique qui présentera une interview, un reportage, un portrait qui sera évidemment en écho avec la thématique choisie. Première thématique au mois de janvier, ça sera la jeunesse. Donc écoutez, ça tombe bien parce que nous avons cette semaine trois jeunes en formation à Odo Radio qui nous ont été diligentés par la mission locale de Haute-Garonne et qu'on remercie. Ils assistent aussi avec nous à cette émission. Donc nous avons Simon, Vincent et Georgiana. Donc nous prendrons un petit témoignage évidemment avec vous sur votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc première thématique du mois de janvier, la jeunesse. Deuxième thématique du mois de février, les filles. Troisième thématique, la jeunesse, mais là cette fois-ci issue de l'immigration. Et quatrième thématique pour le mois de mars, l'handicap. On vous donnera évidemment les autres thématiques pour les mois à venir au fur et à mesure. Et vous pouvez retrouver tout le contenu spécifique de cet appel à projet chaque semaine sur notre site internet. Voilà. Donc messieurs, donc avec vous, on va essayer de faire le tour et de voir en quoi il est pertinent justement de rassembler à la fois des organismes prescripteurs comme le PLI des Hautes-Garonne, mais aussi des chefs d'entreprise qui s'inscrivent dans la démarche de prévention et de lutte contre les discriminations, notamment en signant la Charte de la diversité avec Haute-Garonne Développement, et bien entendu avec Catherine Vessy qui va nous expliquer, la portée politique aussi de cet engagement de la région. Et bien sûr Bruno qui pourra apporter les corrections nécessaires chaque fois qu'il le jugera utile. Donc on va commencer peut-être par vous, Catherine Vessy. Vous pouvez nous expliquer depuis combien de temps la région se préoccupe de la lutte contre les discriminations en Aquitaine?
Alors la région se préoccupe de la lutte contre les discriminations. Elle est engagée depuis 2006, on va dire, à titre pour ce qui concerne l'institution région, dans un plan de lutte contre les discriminations. Et à ce titre, une commission a été mise en place, a été créée en 2007, une commission régionale consultative de prévention et de lutte contre les discriminations, qui a vocation à réunir tous les acteurs aquitains du monde institutionnel, socio-économique, mais aussi des représentants de la société civile, tous ceux qui, comme vous le disiez, avaient été concernés donc par la question de la lutte contre les discriminations. Et l'idée est donc justement, d'une part, de se mettre autour de la table pour faire un diagnostic, mais aussi pour faire émerger justement des propositions, des nouvelles pratiques, sensibiliser, mais aussi faire émerger de nouvelles pratiques dans le secteur professionnel pour prévenir ces discriminations. D'où l'idée de l'appel à projet hein, qui existe depuis 2008 et qui concerne à la fois et la formation professionnelle et l'apprentissage. Appel à projet qui je dois reconnaître est particulièrement productif parce qu'on a vu arriver des tas de projets avec des tas de supports, beaucoup d'imagination, de créativité, comme quoi on a bien compris que c'était un sujet hein, dont les opérateurs avaient la volonté de s'emparer et dès lors que on laissait la place un petit peu à l'imagination et à l'expérience sur le terrain, on a vu arriver tout un tas de projets, de démarches vraiment vraiment intéressantes. Et d'ailleurs on a amené, peut-être on pourra l'évoquer au cours de la réunion de l'émission, à titre exemple comme ça, on a amené un petit peu tout ce qui a été produit en 2008, en 2009, les outils qui ont été faits sur le territoire aquitain sur des tas de supports divers et variés avec des tas de publics, des tas de porteurs, comme quoi vraiment cette question là on voit bien qu'elle traverse l'ensemble des structures et qu'elle méritait d'être posée. Et peut-être on aura l'occasion d'y revenir aussi sur la particularité, la spécificité de votre réponse à vous, aux deux radios, sur cet appel à projet qui nous a particulièrement intéressés parce que vous êtes la première radio en Aquitaine à avoir répondu à cet appel à projet. Là, on a vu effectivement un moyen aussi de diffuser justement ces pratiques, de susciter le débat et les rencontres autour d'un média original que l'on n'avait pas encore dans les appels à projets. Voilà. Sur un territoire en plus qui est fortement impacté par les questions de discrimination.
Tout à fait. Mais on vous remercie, Catherine. Alors effectivement, en plus de ces contenus spécifiques qui seront hebdomadaires, on aura aussi des jingles qui passeront tous les jours évidemment pour annoncer cet appel à projet, et aussi un jingle spécifique par mois. Par exemple, là, on a fait enregistrer par les jeunes justement qui étaient en stage chez nous un jingle qui sera donc consacré aux jeunes pour le mois de janvier, qu'on fera écouter après l'émission, si vous le voulez bien. Mais peut-être quelques exemples déjà, Bruno, des réalisations déjà effectuées et qui ont été financées justement dans le cadre de cet appel à projet par la région. Quelques réalisations remarquables, quoi.
Sur la quarantaine de projets qui ont été retenus par les élus du Conseil régional depuis 3 ans, les projets sont très variés. Ça va de films de lutte contre les discriminations préfacé par Bertrand Schwartz, créateur d'émissions locales, qui a été faite par une mission locale à Marmande. Ça va sur des guides qui ont été réalisés par 3 plis de l'agglomération bordelaise, qui en plus ont fait un travail de complémentarité. Ça va à la mise en place du CV anonyme, de l'expérimentation du CV anonyme dans deux boîtes aussi petites que Turboméca, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça va sur un travail sur l'employabilité des personnes sourdes dans l'aérospatiale ou l'aide à domicile. C'est extrêmement varié. Je dirais que le fil rouge de tous ces projets, c'est de travailler sur le changement de la représentation, quel que soit le thème, puisqu'il s'agit de la santé, du handicap, de l'égalité homme-femme, des seniors, ça prend effectivement, on a souhaité que ça soit le plus large possible puisque l'appel à projet est ouvert aux structures de l'insertion par l'économie, par les missions locales, les prescripteurs, les organismes de formation, éventuellement des clubs d'entreprise aussi. Et on a laissé toute latitude, je dirais, c'est l'ouverture des fenêtres à l'imagination. Et au bout de 3 ans, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses vraiment intéressantes. Il y a des projets qui se sont moins bien passés, c'est clair aussi. Mais c'est globalement, il y a des choses qui sont vraiment très, très intéressantes.
Donc l'utilisation de ces outils par les publics, par les différents publics, on va dire, concernés par cette question-là, mais facilitera le changement des pratiques dont vous parliez, Catherine Messy.
Oui, moi, je voudrais juste rajouter, en complément de ce que vient de dire Bruno, il parlait du CV anonyme. Effectivement,
mis en place à la région.
Voilà, hein, je voulais dire aussi que le conseil régional a d'abord commencé par montrer l'exemple dans sa propre maison avant de lancer l'appel à projet, puisqu'il y a les modes de recrutement. Les recrutements se font désormais sur le CV anonyme, sur la base du CV anonyme, et que les premiers chiffres montrent que depuis qu'il y a cette mise en place de CV anonyme, on a plus de 50% de candidatures par poste. Donc comme quoi la perspective du CV anonyme a peut-être aussi, on va dire, permis des candidatures, des personnes qui ont estimé que
ils
avaient peut-être leur chance, ce qui peut être en creux un peu terrifiant par ailleurs. Parce que ça veut dire aussi
qu'il y en a beaucoup qui s'autocensurent
normalement. Il y en a beaucoup qui
quoi.
Finalement s'autocensurent. Alors là, c'est dans le cas des postes du conseil régional, mais moi ça m'a interrogée aussi parce que je me dis que c'est sur quasiment, est-ce que cette réflexion-là, alors là peut-être que ceux qui sont en lien avec le monde du développement économique, je pense à Haute-Garonne, peut apporter quelques réponses, mais moi ça m'a vraiment interrogée quoi. Je me suis dit, finalement, il y a peut-être aussi, déjà à la base, des personnes qui se censurent et qui n'envoient pas leur candidature.
Alors peut-être qu'on va revenir juste sur le mot discrimination avant de passer la parole à Jacques Blouin et Marina Cossé. Discriminer, c'est quoi en fait? Discriminer, c'est pratiquer un traitement inégal entre des personnes ou un groupe de personnes dans une situation comparable et en raison de critères interdits. Des critères interdits par la loi. Hein. Donc évidemment, si on respecte pas la loi, mais on peut se faire condamner même très lourdement. Hein. Donc, alors peut-être Marina Cossé, on parlait des outils qui avaient été justement financés par le conseil régional dans le cadre de cet appel à projet. Alors je crois savoir que le PLI Haute-Garonne a déjà bénéficié justement de ces financements. C'est bien ça, Marina ?
Oui, tout à fait. En 2009, effectivement, on a répondu à l'appel à projet du Conseil régional, sachant que notre dispositif, effectivement, et nous sommes des intermédiaires à l'emploi, donc nous sommes à la fois en accompagnement de publics demandeurs d'emploi sur le territoire et de l'autre côté, en intermédiation avec le monde de l'entreprise. Donc ça nous paraissait très important, puisque c'est notre quotidien, de travailler ces questions de discrimination où aujourd'hui on constate qu'on est face à des discriminations de tout genre, la première liée à l'origine, la seconde à l'âge, hein, entre les publics, on va dire, dits jeunes et les publics de plus de 45 ans.
Oui, parce que l'âge, ça va dans les deux sens, Marina.
Voilà,
donc on peut discriminer parce qu'on est trop jeune,
dans les deux sens. Voilà,
parce qu'on n'est pas assez jeune. Quoi,
voilà, exactement. Et on a malheureusement beaucoup de discrimination par rapport à ça, au genre aussi, hein, et donc ça pose la question femme, de l'égalité homme-femme, tout à fait, et au genre lié aussi, notamment, on a rencontré des problèmes de discrimination par rapport à ce qu'on appelle l'état de grossesse ou situation de maternité, qui ont fait que des femmes, effectivement, se sont retrouvées en situation délicate en entreprise ou en recherche d'emploi.
Critères qui rentraient par la suite dans la loi.
Voilà, tout à fait. Maintenant, ce sont des critères qui sont rentrés dans la loi. Il y a un critère, effectivement, qui aussi, peut-être, qui va rentrer dans le cadre de la loi, c'est le lieu de résidence.
L'adresse. Hein.
Voilà,
l'adresse. Une étude de cet été qui a été produite, voilà, justement, qui montrait, effectivement, encore ce caractère discriminant, rien qu'en mettant son adresse sur un CV, justement.
Tout à fait. Voilà. Et donc, on essaie, effectivement, nous, on est particulièrement touchés par ces phénomènes sur notre territoire. Depuis 2003, on y travaillait dans le cadre du GPV des Hautes-Garonnes, puisqu'il y a un plan d'action qui a rassemblé un certain nombre d'acteurs, dont les principaux, à l'époque, ANPE, Mission Locale, et effectivement des acteurs comme vous, hein, où vous participiez.
Eldorado, mais aussi l'AD, l'accès.
Voilà, un ensemble, tous les acteurs du territoire touchés par ces questions-là. Donc on a travaillé en lien avec la Mission Locale, hein, puisque la demande de la région, c'était de travailler aussi dans un mode de partenariat avec la Mission Locale, qui elle-même est confrontée à ces problématiques-là. Et deux autres plis, puisque, alors, sur des territoires différents, qui sont confrontés à des discriminations un peu différentes des nôtres. Néanmoins, elles existent aussi. Et donc, on a essayé, effectivement, d'être complémentaires dans notre approche et de transférer nos outils, hein, puisque l'objectif, c'était ce qu'on arrive à diffuser sur notre territoire, pourquoi pas le diffuser sur d'autres territoires, voilà, dans un objectif, effectivement, de, aussi de, on va dire, de mutualisation de bonnes pratiques.
Alors je crois savoir, Marina, aussi que les employés du Pli Haute-Garonne, à savoir les personnes chargées de l'accueil ou l'accompagnement des publics, ont reçu une formation aussi de prévention de lutte contre les discriminations.
Tout à fait. Donc on a engagé une formation action de nos professionnels. Effectivement, donc toute l'équipe, à la fois ceux qui sont en charge de l'accompagnement et nos chargés de relations entreprises, ont été formés aux questions de discrimination. La discrimination revêt effectivement une définition juridique très précise, et il est important effectivement que nos professionnels soient aguerris à ces questions-là et maîtrisent bien la dimension juridique du problème.
Alors c'est vrai qu'une définition plus juridique, on pourrait dire discriminer, c'est restreindre les droits d'une personne par rapport à une autre à raison de critères interdits.
Voilà, tout à fait. Donc on a particulièrement insisté auprès de nos chargés de relations entreprises avec une entrée effectivement par rapport à la prise d'offre, comment on travaille dans nos relations entreprises une prise d'offre et faire en sorte que cette offre soit non discriminante. Donc aujourd'hui, on a des professionnels effectivement qui, face à des discours discriminants des entreprises, on retravaille ça avec l'entreprise et en leur rappelant effectivement les règles de la loi et en les amenant effectivement à engager des processus de recrutement non discriminants sur le territoire. Donc aujourd'hui, effectivement, ça porte ses fruits puisqu'on a on a une centaine d'entreprises partenaires aujourd'hui du dispositif. Il faut savoir que dans notre dispositif, on a une population fragilisée qui a un chômage de longue durée, qui rencontre un chômage de longue durée, en grande partie issue de l'immigration, 70% de femmes. On a 30% de personnes de plus de 45 ans. Donc c'est effectivement notre intérêt, c'était de faire une intermédiation auprès de l'entreprise qui évite tout processus de discrimination. Par ailleurs, on a travaillé aussi, grâce au soutien de la région, à un guide qui est diffusable sur notre site internet. Donc je donnerai effectivement toutes les indications aux auditeurs sur l'adresse de notre site. Et c'est ça aussi qui est très important. Sur notre territoire, nous avons des organismes relais. Et donc je pourrais, si le temps m'est permis, donner quelques partenaires avec qui nous travaillons, qui sont spécialisés sur le mode juridique.
Bien sûr, Marina,
et qui peuvent aider.
Vous avez aussi ce rôle-là d'orientation aussi quand
voilà.
Il y a un caractère discriminant.
Voilà, nous, effectivement, nous ne sommes pas des juristes. Et c'est vrai qu'on essaie effectivement d'inciter les demandeurs d'emploi quand ils sont ou même des salariés quand ils sont face à des problèmes de discrimination à les orienter vers des organismes relais pour qu'ils aient effectivement un soutien, un accompagnement et notamment sur le plan juridique. Voilà.
Alors peut-être Dominique avec une question et puis après vous citerez vos partenaires, Marina.
Vous parlez des entreprises. Alors quel est le constat par rapport aux discriminations? C'est par méconnaissance de la loi ou d'autres raisons?
Alors, il y a deux aspects. Nous sommes face à des entreprises qui tiennent des discours proprement discriminants, voilà, qui ne s'en cachent pas, qui sont dans ce qu'on appelle, un peu dans une terminologie, ce qu'on appelle la discrimination directe. Donc, c'est-à-dire qu'ils affichent très clairement leur discrimination homme-femme, personnes issues de l'immigration, ils ne veulent pas une certaine typologie de public. Ils affichent aussi une discrimination par rapport au genre, par rapport au poids de charge, par exemple. Ça, on y est souvent confronté.
L'entreprise de transport, on va dire, on ne recrute pas les femmes parce que bon, c'est trop lourd.
Oui, voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on rencontre le plus communément. C'est-à-dire, parce que c'est physique, on ne va pas recruter des femmes. Or, selon le code du travail, une femme jusqu'à 25 kilos... voilà, il est possible effectivement qu'elle puisse faire du port de charges lourdes. Voilà, donc on est face à certaines représentations des chefs d'entreprise. Et donc, il y en a certains qui sont dans la discrimination directe, qui l'assument et qui derrière, effectivement, derrière ça se cache un discours, on va dire, parfois raciste. Voilà, donc là, on a des moyens de lutter très efficacement, même si la loi, et ça, faut le préciser, de par la loi, la discrimination n'est pas... Enfin, le racisme n'est pas traité de la même façon que la discrimination, de par la loi. Donc ça, faut quand même le préciser. On peut...
Il ne faut pas confondre les deux, d'ailleurs,
Marina.
Il ne
faut pas confondre, parce que le racisme, effectivement, est condamné au pénal. Les questions de discrimination peuvent être condamnées soit au civil, par le tribunal des prud'hommes, soit au pénal. Voilà, il y a deux procédures différentes et juridiquement, on n'est pas dans le même cadre. Après, nous sommes face aussi à des chefs d'entreprise qui font ce qu'on appelle la discrimination indirecte. C'est-à-dire qu'ils vont nous déposer une offre et sous-tendu, voilà, ils n'affichent pas clairement leur choix si vous voulez, par rapport hommes-femmes, personnes issues d'immigration, jeunes, seniors, mais on sent derrière que derrière se cache un critère discriminant. Donc nous, notre objectif, c'est de faire émerger le critère, parce qu'il faut à un moment donné l'amener très clairement à dire, bon, en gros, ce que vous cherchez, et donc retravailler l'offre et leur faire admettre que voilà, leur critère d'offre est absolument discriminant et qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui, de par la loi, avoir ces critères de recrutement.
Oui, est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler le déni de discrimination, enfin, une discrimination dont on n'a pas conscience du tout,
oui,
avec des difficultés pour que le chef d'entreprise prenne conscience de la discrimination.
Tout à fait. Il y a un problème, et je pense que Jacques Blanc pourra en parler tout à l'heure, mais on a un problème effectivement de déni des entreprises qui sont parfois dans l'ignorance aussi de la loi, dans l'ignorance du code du travail, parce qu'il y a des choses quand même aussi qui sont inscrites dans le code du travail. Et ils sont effectivement dans ces communément admis, par exemple sur certains postes, qu'on recrute tel ou tel type de population. Voilà, donc ça fait partie de la, un peu, excusez-moi, de la légende urbaine. Et malheureusement,
c'est un peu le catalogue des stéréotypes.
Voilà, le catalogue des stéréotypes et des clichés. Et certains, malheureusement, sont encore dans cette logique-là. Ça bouge, ça change. Il faut aussi quand même être positif. On a des chefs d'entreprise qui sont conscients de ces problématiques, qui essaient d'évoluer, qui sont en train de mettre en place des processus de recrutement RH, ressources humaines, un peu plus factuels, avec des jurys de sélection, avec des grilles d'entretien. Et effectivement, ce que disait Catherine Vessy sur le CV anonyme, enfin, nous, on le pratique aussi sur notre site internet, on diffuse des CV qui sont anonymes, donc qui n'indiquent que l'expérience et les compétences du demandeur d'emploi. Et c'est vrai que c'est en train de changer. Nous, notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a un public demandeur d'emploi qui, face à ces discriminations, baisse les bras et se dit, aujourd'hui, aller chercher du travail, j'ai plus de 50 ans, je suis d'origine maghrébine, personne ne voudra de moi, quoi. Et ça, pour nous, c'est très compliqué parce qu'ils baissent les bras, ils se démobilisent. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de leur dire, vous avez des atouts, vous avez des compétences, et il faut être stratégique avec l'entreprise. Il faut faire valoir ses compétences avant tout. Et le chef d'entreprise, face à des compétences, il ne pourra qu'à un moment donné se plier, quoi.
Voilà. Donc justement, on parle de chef d'entreprise, donc on va laisser la parole à Jacques Blouin, qui font un grand travail justement d'accompagnement justement de ces entreprises de la rue droite vers la prévention et la lutte contre les discriminations. Mais peut-être avant, parce qu'on parle beaucoup de cette loi, on va quand même énumérer les critères de discrimination retenus jusqu'à aujourd'hui par la loi. Donc est prohibée par la loi toute discrimination fondée sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la situation de grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, donc on en parlait, les opinions politiques, les convictions religieuses, les activités syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou encore une race. Voilà donc les 18 critères retenus dans la loi. Et nous passons évidemment la parole à Jacques Blouin. Donc Jacques, on s'est croisé sur le terrain tout au long de l'année 2010, à la signature au mois de mai à l'auditorium de Foirac avec 19 premières entreprises qui avaient signé. On s'est recroisé à Corbon-Blanc au mois de novembre. D'ailleurs, notre collègue Dominique Andrieux était là et on a encore l'article sous les yeux. Donc là, encore 15 nouveaux acteurs qui ont re-signé. Donc en quelques mots, Jacques, vous allez nous expliquer en quoi consiste cette charte de la diversité et comment Haute Garonne Développement accompagne ces entreprises dans la signature et la réalisation des objectifs fixés, finalement.
Oui. Tout d'abord, c'est vrai, en ce qui concerne la loi, il y a une méconnaissance de la loi. Il faut bien le voir. Les chefs d'entreprise ne connaissent pas la loi, connaissent mal le code du travail. Ça, c'est une première chose. Il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui affichent carrément la discrimination à l'embauche. C'est vrai. On en rencontre régulièrement. Il y a aussi, et pour beaucoup, ce que disait Marina Cosset à l'instant, une discrimination indirecte, inconsciente, qui est liée la plupart du temps au fait que les chefs d'entreprise n'ont pas écrit le profil de poste vraiment qu'ils recherchent. Et à partir du moment où le profil de poste n'est pas écrit, le chef d'entreprise n'a pas vraiment cerné les compétences de la personne qu'il recherche. Et donc, puisqu'il est seul souvent à choisir, le choix se fait sous l'influence de sa culture et de ce qu'il vit, de ses propres représentations, exactement. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit un choix forcément qui rejoignent les compétences dont il a besoin. Et nous, on travaille dans le cadre de la promotion de la charte de la diversité sur cet aspect-là des choses, en disant vous avez tout intérêt à travailler sur la définition d'un profil de poste qui va vous apporter plus de compétences, plus de compétitivité au sein de l'entreprise.
Donc ça, c'est un argument important, Jacques. La compétitivité, on n'y pense pas toujours quand on défend la prévention et la lutte contre les discriminations. Donc ça, ça fait partie des arguments que vous faites passer auprès des gens.
Voilà, et c'est la raison pour laquelle, je pense, on est arrivé en l'espace d'un an à avoir 35 entreprises qui ont signé cette charte, parce que au-delà de la signature de la charte qui comporte 6 articles, les entreprises s'engagent à atteindre 1 ou 6 articles de cette charte. Alors la première, le premier objectif, c'est d'abord qu'ils soient sensibilisés. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une discrimination ? Il faut qu'ils le sachent. Et puis qu'ils puissent sensibiliser leurs partenaires, leurs collaborateurs à ça aussi. La deuxième chose qui les engage aussi, c'est d'accueillir au sein de l'entreprise un certain nombre de stagiaires de la diversité, et puis qu'ils s'engagent aussi, en troisième lieu, à écrire les profils de poste et à recruter, ça a été souligné tout à l'heure.
Donc sur des compétences.
Sur des compétences, que le recrutement ait lieu avec un jury, autant que possible, qu'il y ait un regard croisé
plusieurs personnes, quoi.
Des candidatures qui se présentent. Hein, qui, voilà, parce que une seule personne, on sait que nos représentations propres jouent sur les recrutements. Donc ce soit un jury qui soit mis en place de 2-3 personnes. Donc on travaille, nous, là-dessus.
Alors c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de croiser le secrétaire général et de la charte diversité à l'occasion du Tour de France, de la diversité, mais aussi sur les 2 signatures que vous avez organisées au Grand Développement, à Floirac et à Carbon-Blanc. Et alors Caxan aussi mettait l'importance sur le fait qu'aujourd'hui, la charte diversité, ce n'est pas uniquement un label, une signature sur un bout de papier, c'est comme vous le disiez, un engagement vers des objectifs inscrits et un rapport annuel. Alors,
un rapport
qui
annuel.
Qui permet de mesurer justement le travail de l'entreprise quoi,
exactement.
Vers ce processus de non-discrimination.
Voilà, on a fait une première année avec... on avait signé et contractualisé avec les 30 entreprises un certain nombre d'objectifs précis, d'accueillir des stagiaires, de participer aux forums pour l'emploi qui sont organisés dans les communes, soit Lormont, Senon, Bassins, etc., de s'engager donc à faire des profils de postes pour les recrutements. Donc ces personnes-là ont joué plus ou moins le jeu de cet engagement-là, puisqu'il y a un bilan à faire. Hein. Cette année, on va aller beaucoup plus loin.
Donc
avec
le bilan,
ces
vous êtes déjà parvenu, Jacques, au gouvernement, a déjà le commencé bilan, à recevoir les premiers signataires là, du printemps. Ils ont commencé déjà à réaliser.
Oui, on a déjà un certain nombre de bilans, oui, de ces entreprises. Hein.
On peut avoir quelques infos. Alors, on voit que les pratiques évoluent justement.
Oui,
Jacques, alors,
les pratiques évoluent notamment, principalement, hein, sur l'écriture des profils de poste. On nous demande aujourd'hui de quelle manière on peut s'y prendre justement pour bien rédiger un profil de poste.
Et optimiser manière le recrutement. Quoi.
Voilà, exactement.
Dans des conditions objectives cette fois-ci. Quoi.
Tout à fait. Donc là, on y arrive, mais c'est quand même un travail à répéter régulièrement. Hein. On ne peut pas dire que... Parce que le chef d'entreprise est pris dans toutes sortes de travaux, d'initiatives à prendre tous les jours, il est important que nous lui rappelions régulièrement la charte qu'il a signée avec les différents objectifs qu'il a signés pour qu'à la fin de l'année soit fait un bilan. Pour ça, nous allons mettre en place un tableau de bord pour chaque entreprise parce qu'on se rend compte finalement que
Une redistribution de bons points,
à un moment
donné, quand même.
Non, pas de bons. Non, pas du tout de bons. Non, pas du tout.
Ceux qui ont vraiment réalisé.
C'est-à-dire que de toute façon, le secrétariat national, la charte de la diversité, a bien informé que les entreprises qui signent la charte de la diversité, mais qui n'affichent pas de résultats au terme d'une année, ça sera tout simplement la charte sera rayée avec eux. Donc, il est important et moi, j'y crois. Il y a des entreprises qui font de vrais efforts pour qu'au sein de l'entreprise, ça bouge. que les choses changent, que on l'a vu cette année, hein, des entreprises ont fait des efforts pour accueillir des stagiaires. Mmh. C'était très important, elles ne le faisaient pas.
Mmh. Donc, oui, voilà. Dominique, je voulais vous poser une question, je crois.
Un petit mot sur le profil des entreprises où on ressentirait la discrimination. C'est... Les grosses entreprises, les PME, les petites...
Non, les grosses entreprises, souvent, ont des DRH. Hein, donc, il y a des DRH qui sont formés, qui, pour un certain nombre d'entre elles, connaissent justement
la loi. Oui, les process de recrutement et la loi.
Et les process de recrutement. Donc, pas forcément les grosses entreprises, non. Peut-être plus les TPE, PME. Bon, mais encore que... On trouve un peu partout. Hein, c'est pas si... C'est diffus, tout
peut-être
ça.
Peut-être un complément, un commentaire de Bruno Sibé.
Oui, sur ce point, depuis 3 ans, au niveau de l'appel à projet, on s'aperçoit, j'ai oublié de dire tout à l'heure, que la demande a été faite que le porteur du projet, si c'était un porteur de l'apprentissage ou de la formation, soit en lien avec une association qui travaille sur la lutte contre les discriminations, et le contraire. J'entends par là qu'on a joué sur un métissage de cultures, dans la mesure où il y a des associations de lutte contre les discriminations qui sont très généralistes, et des organismes de formation ou des CFA qui, effectivement, n'ont pas forcément... Bon, les plis, vous, entre guillemets, vous y baignez, mais il y a plein de structures qui ne sont pas dans ce détail-là. Et le pari qui a été voulu, c'est de travailler sur le métissage des deux professionnels. Et on s'aperçoit en 3 ans qu'il y a un certain nombre de structures qui, d'une année sur l'autre, représentent des projets qui sont acceptés ou pas, et ils ont une graduation dans leur travail. C'est comme ça qu'il y a une association sur la Gironde qui a présenté la première année un travail sur l'apprentissage dans sa globalité, le maître d'apprentissage, parce qu'il faut penser à cette personne-là qui elle-même est en entreprise, l'apprenti et les formateurs. La deuxième année s'est attaquée à la formation des conseillers d'accueil d'une mission locale. Et dès 2010, il va y avoir 8 missions locales sur 23 qui vont avoir ce type de formation un peu à la carte. Et cette année, a déposé un projet avec un OPCA, c'est-à-dire un organisme professionnel de collecte des fonds de formation, qui est un organisme pour le coup interprofessionnel, qui va sélectionner 15 à 20 entreprises avec qui ils vont travailler. Et effectivement, je ne dis pas qu'ils n'y vont pas dans le brouillard, mais quelque part, ils veulent prendre cette thématique-là, faire progresser les choses. Et c'est un pari qu'ils ont fait. Et ils vont être accompagnés par cette association, par les entreprises. Et on s'aperçoit ce que vous dites sur le pli de rive droite et Haute-Garonne, on le voit ailleurs. On le voit sur les Pyrénées-Atlantiques, où il y a eu un projet qui a été déposé par rapport au CFA agricole. Et donc aux maîtres, aux apprentis aussi. Mais il y a aussi une structure qui travaille sur les grosses, je parlais Turbomeca, Sodibo, mais il y a une autre structure qui a déposé un projet avec la Chambre des métiers. Les Chambres des métiers ont déposé beaucoup de projets depuis 3 ans. Et ils sont aussi en route depuis quelques d'autres années par rapport à l'apprentissage sur ce travail de lutte contre les discriminations. Et c'est un petit peu sur le handicap. Il y a quelques années... Je pense à un organisme de formation qui est arrivé en disant un trisomique en apprentissage, vous n'y pensez pas. Et puis la représentation a joué, c'est devenu classiquement la mascotte. Et maintenant, cet organisme de formation ne se pose plus la question. Et au niveau de l'entreprise, c'est pour ça que c'est pour nous l'appel à projet, il est tous azimuts. Parce que c'est une chaîne. Il y a embauche parce qu'il y a formation, parce qu'il y a apprentissage. Et il faut que tout le monde soit effectivement sur l'ensemble de la chaîne. Et c'est pour ça que même si ce n'est pas la compétence de la direction de la formation et de Catherine Vissy, on l'a ouvert à l'entreprise, à des projets d'entreprise, mais liés effectivement sur les deux. Et on peut voir, vous parlez de 25-30, il y en a une quarantaine sur Techno-Ouest, face Pyrénées-Atlantiques, qui est une structure locale d'une structure nationale également fait signer. Enfin, je veux dire, il y a toute une toile d'araignée et les choses avancent. Alors, bien évidemment, jamais aussi vite qu'on voudrait, mais globalement, on voit que les choses avancent.
Alors, peut-être Catherine voulait rajouter quelque chose, Catherine Vessy.
Oui, moi, ce que je voudrais rajouter un petit peu en complément de ce qui vient d'être dit, c'est que effectivement, pourquoi le Conseil régional, plus particulièrement la direction de la formation professionnelle, et l'apprentissage est au centre de au cœur de cet appel à projet, parce que le maître mot, moi j'ai envie de dire, c'est le mot compétence. Ça a été dit autour de la table. Nous on a vocation par nos compétences au niveau de la région, c'est le cas de dire, de mettre en place des actions de formation qualifiante, de faire donc acquérir des compétences à des hommes, à des femmes, à des jeunes, à des moins jeunes, à des demandeurs d'emploi, de faire acquérir des compétences pour pouvoir ensuite intégrer un emploi. Et cet aspect-là, et c'est bien ce que vient de dire aussi Bruno, cet aspect-là, compétence, on va le retrouver sur, on va dire, tous les maillons de la chaîne. On a beaucoup parlé, effectivement, des entreprises. C'est très important ce qui a été dit déjà, faire un profil de poste, c'est-à-dire définir les compétences dont on a besoin. C'est-à-dire que pour une fois, désormais, l'entreprise mettra en avant, priorisera, hiérarchisera dans ses besoins le fait, ce qui est plus important pour elle finalement, avant tout, c'est d'avoir les bonnes compétences pour faire fonctionner son entreprise. Dans le même temps, cette question-là, elle doit aussi être traitée avec les organismes qui accompagnent aussi les personnes, qui eux aussi ont un travail à faire, y compris sur eux. On parlait des représentations des entreprises, les images qu'elles peuvent avoir, la culture aussi qu'il faut qu'elles arrivent à acquérir. Bon, moi, je dois dire aussi qu'il y a un petit peu de pratique, un peu d'expérience. Je constate aussi que ce qu'on appelle dans notre jargon les prescripteurs ont parfois aussi des représentations sur lesquelles il convient de travailler. Cet appel à projet est important parce que justement, comme il met autour de la table mission locale, puis structure d'accompagnement, organisme formation, on voit bien que quelquefois, eux-mêmes sont enfermés, on va dire, dans leur propre représentation. Et le troisième point aussi qui est intéressant dans cet appel à projet, c'est que la notion de compétence, on l'aborde aussi par l'individu lui-même, qui lui-même, parfois, c'est un peu ce que je disais en introduction de mon propos sur le CV anonyme, parfois aussi la personne, finalement, se freine, se dit ben, « ça, c'est pas fait pour moi ». Alors que moi, je pars du principe, et c'est partagé aussi par toute l'équipe de la direction de la formation, elle est vraiment animée de ça, c'est une vraie conviction que chacun a des compétences. Chacun, quel que soit son univers, son histoire, son parcours, il est en capacité de faire quelque chose. Il porte en lui des compétences. Et cet appel à projet, finalement, c'est de rêver. C'est l'objectif, c'est de révéler ses compétences. C'est d'ouvrir le champ des possibles. Et moi, j'ai des tas d'exemples comme ça où, quelque part, je citais tout à l'heure, si je peux dire deux mots là-dessus, mais j'évoquais ça avec dans un autre entretien. C'est un exemple que j'aime bien citer parce qu'il m'a été rapporté par une jeune femme qui était au chômage, pas de qualification, pas de formation, besoin de travailler, besoin de manger pour pouvoir manger. Et quand elle est allée à Pôle emploi en disant voilà, moi je qu'est-ce qu'il y a comme boulot vite ou une formation, quelque chose qui me permettra d'avoir un peu de revenus, personne en Pôle emploi qui lui dit bon écoutez, non, pour vous, pour une femme, non, il y a pas, il y a bien une formation qui va démarrer, mais c'est pas pour vous, c'est les conducteurs d'engins, ces travaux publics, de terrassement, c'est pas pour vous. Et la fille a dit bon, c'est vrai, moi quand j'étais petite, je ne rêvais pas de conduire un engin, ça fait pas partie de ce que j'avais imaginé comme métier. Ceci dit, moi j'ai vraiment besoin de manger, donc moi je veux bien m'inscrire sur cette formation. Donc c'était la seule fille, mais c'est quasiment elle finalement qui a dit mais donnez-moi ma chance, moi je sais pas faire, mais si je suis formée, je pense que je peux y arriver. Elle a donné une leçon incroyable, parce qu'effectivement, avec une formation, elle a pu avoir les compétences. Et maintenant, elle a été embauchée par un très grand groupe de BTP. Et elle travaille dans un univers qui, pour l'instant, est exclusivement masculin, dont on se demande pourquoi il est exclusivement masculin. La preuve est faite qu'il n'y a pas de, ou très peu, je ne sais pas, de métier strictement masculin. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'appel à projet permet de révéler, susciter, on va dire, cette notion de compétence qui est majeure et où chacun doit croire, vraiment, c'est ce qui doit guider, c'est le fil rouge, c'est le mot compétence.
Alors, peut-être une question de Dominique.
Ouais. Alors, dans la suite de ce que vous dites, compétence, donc niveau de qualification, discrimination, plus on est qualifié, moins on est discriminé, ou... Oui, non.
La...
Oui, c'est vrai que c'est... Alors, je rebondis sur ta question, Dominique, parce que c'est vrai que notre sujet du mois, c'est quand même les jeunes. Et alors, c'est vrai qu'on a un véritable problème sur l'emploi des jeunes en France, et pas seulement dans la région Aquitaine. Attention, je dis bien en France, on est à 22-23% de taux de chômage chez les jeunes, 24 ans. On est, et alors, taux qui explose quand on est sur un territoire comme la rive droite, dans des quartiers difficiles. Je crois que c'est de l'ordre de 37% pour les filles, de 43% pour les garçons.
Oui.
Donc là, on a vraiment, vraiment un vrai problème, un vrai frein à l'emploi. Donc quand on parle de critères qui est inscrit dans la loi, on parle de l'âge. C'est vraiment un critère de discrimination, l'âge. On dit que vous êtes trop jeune, vous n'avez pas assez de compétences.
L'âge est un grand facteur de discrimination et pour les populations jeunes et pour les populations de plus de 45 ans. Aujourd'hui, on a une population, effectivement, malheureusement, qui a très peu de qualifications sur le marché du travail, particulièrement sur ce territoire. Donc c'est vrai qu'on incite aujourd'hui les demandeurs d'emploi à accéder à une formation. Et c'est vrai que le partenariat avec le conseil régional et sa compétence en matière de formation est très importante.
Donc vous faites un peu le lien entre, d'un côté, le demandeur d'emploi à qui vous avez demandé de se requalifier, d'augmenter son niveau de formation.
On a mis en place un observatoire des parcours dans le dispositif PLI et on s'est rendu compte que le principal frein à l'emploi, et c'est vrai qu'on a comparé par rapport à d'autres territoires et d'autres PLI, le principal facteur aujourd'hui et de frein à l'emploi, c'est le manque de qualification. Voilà, on a aussi une population qui a des problématiques de maîtrise des savoirs de base, hein, des difficultés pour lire, écrire, maîtriser la langue et au-delà, effectivement, avoir un titre professionnel en main pour prétendre effectivement à un poste sur le marché du travail. Donc ça, c'est une réalité. Alors, la question par rapport aux discriminations, parce que c'est là aussi c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le niveau de qualification n'est pas un critère prohibé par la loi. Aujourd'hui, une entreprise qui dit, moi, je souhaite un niveau de qualification CAP, BEP ou Bac plus 2, c'est un critère de sélection aujourd'hui qui n'est pas prohibé par la loi.
En réalité, on est quand même dans une société qui est obligé de sélectionner tous les jours,
donc par rapport à des critères. Nous, l'action qu'on mène très concrètement, c'est que soit l'entreprise est sur des critères de discrimination prohibés par la loi, et là on a un moyen, on dit stop et on a un moyen très 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 rapide d'agir, parce que la loi effectivement nous le rappelle et on leur rappelle. Quand on arrive sur des critères dits de sélection, et dans notre société il y a des critères de sélection, ça fait partie des normes malheureusement qui sous-tendent toute notre vie dans la société française et même dans une société globalisée. Nous, ce qu'on cherche à faire avec l'entreprise, et ça rejoint ce que disait Jacques Bloin sur le profil de poste, on amène les chefs d'entreprise à parfois requalifier leur poste de travail. C'est-à-dire, par rapport à un poste de travail donné, est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'un bac plus 2, par exemple, pour tenir un poste de secrétaire ?
Donc c'est vraiment ce rôle d'interface, mettre l'entreprise et le demandeur d'emploi au même niveau pour qu'ils puissent travailler
Exactement.
Ensemble.
Exactement. Et on se rend compte que quand on décline les tâches demandées dans l'entreprise, ils se rendent compte au fur et à mesure, ils disent, effectivement, bac plus 2, j'ai pas besoin spécifiquement d'un bac plus 2 pour tenir ces fonctions-là. Une personne qui a une expérience ou un niveau CAP-BEP, par exemple, pourrait tenir parfaitement ses fonctions. Donc on amène l'entreprise à renégocier ses critères de sélection, qui ne sont pas des critères de discrimination au sens de la loi.
Sans oublier la compétence, quoi.
Voilà, et on revient sur la compétence en disant, par rapport à ce que vous demandez, est-ce que vous avez effectivement besoin d'un bac plus 5 pour faire ça ? Enfin, je caricature un peu, mais... Et donc, c'est ça. Et puis bon, nous, en plus, on s'occupe d'une population quand même qui n'a pas de qualification en poche. Donc, on essaie effectivement de réinsérer des personnes qui, a priori, ne seraient pas recrutées en entreprise, quoi. Et on constate que ça fonctionne. Les entreprises changent de regard sur des populations. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on a des demandeurs d'emploi qui n'ont peut-être pas le bac plus 2 en poche, mais qui sont motivés, qui ont des savoir-être et les comportements nécessaires pour aller en entreprise, qui expriment leur volonté d'aller travailler. Et rien que ça en soi, c'est devenu un critère de sélection dans l'entreprise. Donc nous, ce qu'on dit aux demandeurs d'emploi du territoire... Formez-vous, parce que ça, c'est très important. Hein. Il ne faut pas oublier la qualification.
Donc à ce moment-là, on regarde nos trois stagiaires dans la
pièce. Voilà, et en même temps, à partir du moment où vous avez les on va dire, les codes de l'entreprise, ou le savoir-être, c'est-à-dire être motivé, vous présenter à l'heure en entreprise, respecter votre hiérarchie, voilà, des choses, on va dire, les savoir-être de base, ça, le chef d'entreprise y est très sensible. Et c'est aujourd'hui, sincèrement, un des premiers critères de recrutement qui arrive, des entreprises qui nous disent, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est une personne qui arrive, en gros, excusez-moi l'expression, à l'heure au boulot, et qui, par rapport à ce que je lui demande, fait ce que je lui demande. Voilà. Donc, on est sur quelque chose quand même où ça aussi, ça permet de négocier des contrats de travail avec des entreprises, autre chose que sur, excusez-moi, la diplomate et le critère de sélection hyper élevé parfois des entreprises qui n'est absolument pas justifié par rapport au poste de travail.
Je voudrais bien voir l'analyse de Jacques sur cette question, justement, l'accessibilité là, par rapport à l'âge, et puis en particulier plutôt pour les jeunes, comment ça se passe leur insertion dans l'activité économique sur la
réponse. Mais ce qu'a dit Marina Cosset, je pense que bon, voilà, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à la fois, les très jeunes ont des difficultés, les même pas seniors ont des difficultés, c'est vrai aussi. Moi, je voudrais surtout souligner le fait que nos 35 signataires de la charte de la diversité, et notamment ceux qu'on a pu entendre lors de la signature à Carbon Blanc, là, oui. les 15,
qui s'engagent dans leur témoignage, à prendre des
stagiaires déjà, témoignage très direct, très spontané, ils marquaient leur différence, c'est-à-dire vraiment leur ouverture, hein, parce que je crois que c'est un état d'esprit. Tout à l'heure, Dominique Andrieux, Sud-Ouest, demandait, bon, dans quel type d'entreprise, finalement, est-ce que ce sont les grosses, les petites, les moyennes? Finalement, moi, ce que je dis, je suis pas sûr que dans les grosses entreprises, où il y a des DRH, finalement, ce soit mieux que ça. Dans certains, oui, mais tout dépend, surtout. Du chef d'entreprise ou de la personne qui est en charge du recrutement. Tout dépend de sa sensibilité, de son ouverture d'esprit, de sa capacité à vouloir faire avancer ces choses-là au sein de l'entreprise. C'est vraiment une question de culture individuelle. Et nous, notre travail, évidemment, c'est de travailler avec nos partenaires sur cette sensibilisation-là et sur à la fois la lutte contre les discriminations et sur la promotion de la diversité au sein de l'entreprise. C'est beaucoup là-dessus. Là.
Alors, c'est-à-dire promotion de la diversité,
valoriser.
Pas uniquement sur la photo, Jacques, si je vous entends bien, c'est la diversité. Je veux dire, vous savez, c'est souvent qu'on montre des photos avec un peu toutes les couleurs sur la photo. En réalité, quand on regarde l'organigramme de la société, ben, on voit effectivement que tout le monde n'est pas au même poste et à des degrés différents. Donc, quand on parle de diversité à l'intérieur de l'entreprise, c'est vraiment à tous les niveaux dans l'entreprise.
Tous les niveaux dans l'entreprise, avec
dans l'évolution de carrière.
Avec le souci dans avec le souci de l'évolution de carrière. Hein. Comment l'entreprise travaille avec et pour les salariés à leur évolution de carrière. C'est très important. Ça fait partie d'ailleurs des 6 articles de la charte.
Très bien. Alors peut-être, Catherine Bessy, un mot justement sur, en particulier sur la jeunesse, et la jeunesse dont le statut social se précarise de décennie en décennie, de plus en plus de jeunes très pauvres, on peut le dire, parce que le temps qu'ils accèdent à un premier emploi. Donc vraiment une situation difficile pour la jeunesse dans notre pays. Donc la région Aquitaine, par justement cette action de prévention et de lutte contre les discriminations, vous comptez lever un frein justement au recrutement des jeunes, en passant évidemment par l'apprentissage et la formation professionnelle.
Comme tout ce qui vient d'être dit précédemment, on va pas redire, mais je crois qu'effectivement, le constat, il a été clairement posé. On parlait de critères, de sélectivité entre guillemets, c'est-à-dire que le monde est cruel, le monde est violent, et plus particulièrement pour les jeunes, et plus particulièrement sur des territoires comme ici sur la rive droite, pour toutes les questions, toutes les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure. Donc, il est vrai qu'il est important d'accéder à une qualification, parce que c'est le béaba, mais je crois qu'il faut le dire, et ça répond aussi à la question peut-être qu'a posé Dominique Andrieux tout à l'heure. Effectivement, plus on est qualifié, plus on est formé, plus on a de chances d'ouvrir du travail. Alors moi, je voudrais adresser un message d'espoir à nos jeunes auditeurs, ou peut-être même aussi pour les moins jeunes. Je veux dire, il n'y a pas de fatalité. Chacun, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun porte en lui des compétences. Et même si actuellement, ces personnes ne sont pas qualifiées, ils ont eu une histoire de vie, un parcours qui a fait qu'ils ont décroché trop tôt du système scolaire, qui ont fait que, ben voilà, on se retrouve à 16 ans sans diplôme, on a arrêté l'école, et puis qu'est-ce qu'on va faire? on ne sait pas trop. Bon, voilà. Il existe des dispositifs, et alors moi je voudrais en revenir deux mots là-dessus, notamment au niveau du Conseil régional, où on a expérimenté depuis 2009, et puis donc maintenant ce n'est plus une expérimentation, c'est un dispositif que nous revendiquons et que nous portons avec des partenaires, qui s'appelle les chantiers formation, qualification, deuxième chance.
Qui
dit bien son nom, encore que moi je préférerais presque nouvelle chance, parce que deuxième chance, il y a une espèce de limite qui, bon, bref. Donc chantier école qualification de deuxième chance. Alors là, on s'adresse à des jeunes peu ou pas qualifiés, ou des moins jeunes, hein, puisqu'on arrive aussi, le PLI fait partie des prescripteurs qui orientent les publics vers ces chantiers qualification de deuxième chance, des bénéficiaires du RSA notamment. L'objectif consiste donc à constituer un groupe qui, pendant une période longue, hein, de 6 à 8 mois, donc va s'adosser à acquérir des gestes professionnels sur un support, généralement c'est une commune ou une communauté de communes qui met à disposition un support de formation. Alors ici on peut citer sur la rive droite à Bassens, la commune de Bassens avec le château Bouval, hein, qui a fait l'objet de deux chantiers formation. Il y en a un que j'ai inauguré il y a quelques semaines à Sainte-Eulalie dans la rénovation de la maison du PRU, voilà. Sainte-Eulalie. Il y en a d'autres qui sont en cours de préparation ici sur la rive droite. L'objectif, donc, c'est que dans ce chantier de formation, les personnes vont être prises en charge par un organisme de formation et vont acquérir un titre de qualification. C'est-à-dire que ce n'est pas un chantier d'insertion, il y a vraiment derrière une véritable ambition de qualification. On sort de ce chantier avec soit un titre complet de qualification, soit un bout de titre qui permet d'être carrément opérationnel
sur le marché du travail,
qui permet déjà de construire un CV, ou alors d'embrayer sur une formation autrement plus qualifiante. Et tous les bilans que je fais de ces chantiers qualification sont positifs. Réellement, voilà, on est parti finalement du constat qu'il y avait des personnes qui étaient tellement éloignées de l'emploi pour des raisons diverses et variées, mais qu'il n'y avait pas de fatalité. Et moi, c'est vraiment le message que je voudrais faire passer. Il n'y a pas de fatalité. Vraiment, il est possible de monter en compétences. Il est possible de démontrer ce que chacun peut faire, et on arrive à des résultats qui sont extrêmement intéressants. Je lance aussi un appel aux élus locaux, mes chers collègues maires dans leur commune, pour qu'ils n'hésitent pas à utiliser les chantiers qualification de deuxième chance. Je fais actuellement la tournée des départements en Aquitaine. J'étais à Agen il y a deux jours, et donc là j'ai mobilisé aussi les communes et les communautés de communes. Ça peut être une réhabilitation, un lavoir. Là il y a le mur d'un cimetière dans le Libournais, un chantier qualification sur le mur du cimetière qui va démarrer, dont l'objectif va être de former des tailleurs de pierre, parce que sur ce secteur-là, il y a du travail dans la rénovation des chais, dans les châteaux, etc. Il y a une demande
de savoir-faire.
Il est bien évident que ce n'est pas la commune en question qui a 140 habitants qui va embaucher les 12 tailleurs de pierre lorsque le mur du cimetière sera terminé. En revanche, les personnes vont sortir de là avec un vrai titre. Et moi, j'ai remis un diplôme, je reviens sur l'histoire des femmes. J'ai eu l'occasion de remettre un diplôme de maçon sur bâtiment ancien, donc un titre de qualif un peu pointu. C'était sur un chantier à l'Aréole. Il y avait deux femmes qui étaient dans le groupe, donc deux mamans avec des jeunes enfants, et c'était leur premier diplôme de leur vie. Quand on a remis ça, elles étaient très très fières, en disant c'est le premier diplôme de ma vie, c'était quelque chose. Et elles aussi, il y a 5-6 ans, n'auraient jamais pensé devenir maçon en bâtiment ancien. Mais ça veut dire que voilà, il y a des opportunités locales, il y avait une demande de la part du tissu économique local dans le Réolais d'avoir de la main-d'œuvre un peu qualifiée sur ce type de métier. Et donc il suffit, c'est pas simple, mais il faut le faire, de mettre en adéquation les besoins d'entreprise sur un bassin d'emploi identifié, de trouver un support qui pendant 6 à 8 mois va permettre d'acquérir ce geste, et puis on remet sur les rails comme ça des personnes qui ont été un peu éloignées.
Mais ça, c'est vrai que c'est important de le rappeler, parce qu'on oublie des fois que la formation, c'est tout au long de la vie.
Oui, et ça a un lien avec la discrimination, parce qu'à la base déjà, il y avait, sinon soyons très clairs, les employeurs potentiels ne seraient jamais allés chercher cette dame en question qui elle-même n'aurait jamais pensé pensée qu'elle aurait pu être. Donc, on voit bien que quelque part, c'est de notre responsabilité, on va dire, publique, de faire aussi en sorte que chacun puisse dire, oui, moi, je peux embaucher une femme sur ce métier-là. Puis la dame en question peut dire, mais ça, moi, je peux le faire. J'en suis tout à fait capable.
Très bien. Question de Jacques Brunet.
À propos des pratiques, j'ai consulté le site de la charte de la diversité. Alors, il y a des choses qui sont très, très riches, et ça peut avoir un effet incitateur. Des exemples, des témoignages fort intéressants. Tout de même, il y en a deux là qui m'ont fait sourire un petit peu. Là. Alors, c'est classé de façon thématique. Faire connaître, donc, comment l'entreprise a-t-elle procédé à l'évaluation et à la mise en commun, comment faire connaître, hein. Alors là, je vois un témoignage que j'approuve beaucoup. Répondre aux sollicitations de la presse locale et aux médias professionnels. Hein, je crois qu'on est tout à fait d'accord. Puis alors, il y en a un autre. L'entreprise a-t-elle initié un dialogue avec ses partenaires sociaux ou les représentants du personnel? Et alors là, il n'y a aucun exemple. Voilà. Alors,
Là, je trouve aussi que... Alors, ça mériterait effectivement d'interroger vraiment les entreprises là-dessus. Moi, je rejoins Jacques Blanc sur le fait qu'aujourd'hui, les questions de discrimination, on les trouve dans les grands groupes et on les trouve dans les TPE. Dans les TPE, effectivement, c'est que souvent, ils n'ont pas de service RH, ils ne sont pas professionnalisés pour faire du recrutement. C'est un métier de recruter, hein, je veux dire, ça ne s'invente pas, quoi. Dans les grands groupes, parfois, le problème peut être systémique. Donc là, c'est encore plus grave, c'est-à-dire qu'il y a des processus RH en œuvre dans ces grandes entreprises qui relèvent effectivement un peu de la... Excusez-moi le terme, il n'est peut-être pas très facile à comprendre pour tous ceux qui nous entendent, mais systémique, ça veut dire c'est que l'entreprise a complètement intégré la discrimination dans ses processus de recrutement, ne prend absolument pas en conscience qu'elle fait de la discrimination de masse, quoi, en gros. Donc là, c'est beaucoup plus grave. Alors, bon, il faut mesurer quand même ce type d'approche, mais ça existe. Et c'est vrai que nous, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que les organisations syndicales ont un rôle extrêmement important à jouer aujourd'hui. Moi, je trouve effectivement que ça mériterait qu'aujourd'hui, les 5 plus grandes représentations syndicales qu'on a en France s'approprient vraiment pleinement ce sujet et l'abordent effectivement en lien avec les syndicats patronaux, parce que effectivement, ça se joue aussi dans l'entreprise. Et donc, du coup, après, on joue dans les évolutions de carrière. Et c'est vrai que certes, on arrive à placer un certain nombre de personnes qui potentiellement auraient pu subir des discriminations en entreprise, mais après se pose la question des évolutions de carrière. Et là, on est face effectivement à un plafond de verre qui fait qu'aujourd'hui, on a des personnes, hommes, femmes issues de l'immigration qui, à un moment donné, n'arrivent pas à évoluer dans l'entreprise. Et ça, à terme, c'est aussi une autre problématique. Et ça, le problème, c'est que nous qui sommes sur l'intermédiation emploi, on ne peut plus jouer. Une fois que la personne est en entreprise, bon, nous, on vérifie l'intégration dans l'entreprise, mais après l'évolution de carrière, là, ça relève complètement du chef d'entreprise. Et donc, ça relève des syndicats, quoi.
Un complément, Jacques, peut-être sur le dialogue social.
Concernant le dialogue social, effectivement, je ne pourrais pas dire encore si parmi les 33 signataires chez nous, il y a une volonté de dialogue social au sein de l'entreprise sur ce sujet-là. Je crois quand même. Alors, Jean-Christophe Blancard, tu nous proposais de faire une émission avec les entreprises.
Tout à fait.
En direct, Jacques, justement pour qu'elles puissent témoigner. Moi, je me souviens quand même d'un travail en profondeur qui est fait au sein de Veolia Propreté par la DRH. Je pense que là, il y a sans doute des choses à dire. Pourtant, Quart de Bordeaux aussi. Mmh. Quart de Bordeaux fait des choses intéressantes. Alors, bon, ça, je ne sais pas exactement si le dialogue social après est entamé au sein de l'entreprise. Mais au moins, il y a des actions importantes qui sont conduites. Et ce sera important dans une prochaine
émission, bien sûr, Jacques,
qu'on puisse mobiliser des entreprises, qu'elles viennent témoigner, dire effectivement si elles y arrivent ou pas. Parce que notre travail, nous, c'est pas d'être avec les menaces dont on parlait tout à l'heure. Non, nous notre projet, c'est surtout de faire avancer la réflexion et les actions positives au sein de l'entreprise. Sachant que c'est pas toujours très évident non plus. Mais notre travail, c'est ça, c'est de faire avancer ce travail de réflexion.
Que la prévention et la lutte contre les discriminations deviennent effectives
dans la vie
de l'entreprise. Quoi.
Exactement.
Dans le recrutement, dans l'évolution de carrière. Exactement. Alors peut-être, si vous le permettez, mais Bruno voulait rajouter
un mot. C'était juste un rajout par rapport à ça. Dans la mesure où le conseil régional, sur ce terrain-là, pose ses petits cailloux un peu partout. Je pense par exemple à des actions de formation sur lesquelles qui sont cofinancées avec les entreprises ou avec les organismes, du style la région finance la pré-qualif, l'OPCA ou l'entreprise finance un contrat de qualification, qui est une autre forme d'alternance. Et on observe depuis 2-3 ans que les entreprises, je peux penser à la Sougerma, font appel aux missions locales, font appel aux demandeurs d'emploi, alors qu'il y a quelques années, ils ne le faisaient pas. Et c'est vrai que c'est aussi le discours politique qui est porté par les élus régionaux sur ces sujets-là, qui fait que ça permet de donner d'autres moyens. Je peux penser aussi au dispositif qui est mis en place entre missions locales et CFA pour amener des jeunes. Je peux penser sur le handicap à des prestations d'expertise, de préparation à l'entrée pour des personnes dont on n'aurait jamais pensé qu'elles y allaient et dont certains conseillers d'insertion ou autres se disaient « Oh mais vous n'y pensez pas, il ne peut pas y aller ». Et c'est vrai que sur les entreprises, c'est très symptomatique de voir que ce soit des petites, que ce soit des grandes, que ce soit en urbain, que ce soit en rural. Je pense à une action précise que vous avez, que les élus ont financée depuis 2 mois sur la formation d'aide à domicile en milieu rural. Et ils ont dit, les entreprises ont dit elles-mêmes, on va travailler avec la mission locale. Car ce n'est pas d'aller chercher des personnes à Périgueux ou ailleurs, ce sont les gens qui sont à proximité. Mmh. Et c'est au-delà de l'appel à projet, c'est vrai que c'est dans la politique régionale, c'est toutes ces petites pierres qui sont là pour amener les personnes à être le plus dans la qualification et d'y accéder.
Et au final, c'est vecteur de développement économique, je veux dire.
Bien et bien sûr. Évidemment.
Alors peut-être, je vois que notre temps est pratiquement imparti. J'aurais peut-être voulu, si vous le permettez, prendre un de témoignages avec nos stagiaires. Je vais demander peut-être à Georgiana de nous rejoindre. Voilà, si tu veux bien. Georgiana, vas-y, je t'en prie, assieds-toi. Donc voilà, tu vas essayer de résumer un peu voilà, ton parcours, ton niveau d'études, tes qualifications, puis aujourd'hui ta situation.
Donc, je viens de l'île de la Réunion. Ça fait 4 ans et demi que j'habite en France. Donc, j'ai commencé d'abord à habiter en Alsace avec ma sœur, son mari et leur enfant. J'ai suivi une seconde ISI, initiation aux sciences de l'ingénieur. Ensuite, il y a mon professeur qui m'a proposé de continuer en première microtechnique, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes pour faire cette section. Donc, on m'a réorientée en mécanique. Ça fait que j'étais la seule fille parmi 19 garçons pendant 2 ans. Donc, il fallait déjà supporter les garçons, donc eux aussi me supportaient moi. Et puis, donc ça s'est pas trop mal passé. Bon, bof, il y a eu des petites histoires avec certains de mes camarades de classe, mais donc voilà. Et puis, j'ai eu mon bac à la fin. J'ai passé le second tour avec un peu de difficulté, mais je l'ai eu quand même. Et maintenant, ça fait quelques mois que j'habite en Gironde avec ma sœur toujours et mon frère, enfin mon beau-frère et la petite. Et puis j'aimerais bien faire un BTS audiovisuel. Au début, je savais pas vraiment quoi faire. Je devais me réorienter en BTS propreté et environnement. Donc je me suis inscrite à l'INIT Pessac. Et malheureusement, j'ai pas trouvé d'entreprise avant le 31 décembre. Donc j'ai un peu abandonné ce projet-là. Ça fait depuis 10 ans que je me passionne un peu pour la musique, l'audiovisuel, donc pourquoi pas tenter cette chance. Et donc je me suis inscrite à la mission locale de Carbon Blanc, où je suis suivie par Sylvie Van Mery, qui m'a proposé donc la formation d'audio radio. Donc ça fait depuis mercredi que je suis là, et ça se passe super bien. Voilà.
Très bien. Et alors, tu penses poursuivre justement dans les métiers l'audiovisuel ?
Oui.
Mais est-ce que tu as déjà des pistes aujourd'hui, à l'heure actuelle ?
Je me suis renseignée, donc les lycées sont privés, donc ça coûte vraiment très cher, 5 600 € l'année. Mon père m'a proposé de payer, mais moi je ne veux pas vraiment trop le barasser là-dedans, donc je me suis dit, je vais essayer de payer moi-même, me trouver des petits boulots et puis tenter un BTS à Adams, à Bordeaux. Ou sinon, il y a aussi une école qui n'est pas privée, donc publique à Bayonne, mais c'est quand même loin. Et la voiture et tout ça, donc l'essence, rentrer le week-end ou rester là-bas.
Mais c'est vrai, je me tourne vers Catherine Vessy. Catherine, c'est vrai que la mobilité pour les jeunes apprentis en Aquitaine, ça, c'est quelque chose d'important aussi, se déplacer vers un bassin d'emploi pour trouver soit une qualification, soit un emploi. Il y a des aides au logement. Enfin, c'est aussi une possibilité pour un jeune de se déplacer.
C'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui a été mis en place par le Conseil régional Aquitaine, et dont nous sommes très fiers, parce que, enfin, on est très fiers. En même temps, c'est pas forcément non plus. Ça répond à un besoin. Et c'est le revenu social de formation qui a été mis en place et qui est le fruit d'un travail collectif, justement, avec les missions locales, avec les structures qui accueillent les jeunes et avec lesquelles le Conseil régional travaille étroitement et qui faisait régulièrement remonter les besoins, justement, d'aider les stagiaires, la formation professionnelle, à gérer tous ces à côté de la formation, qui sont quand même essentiels en termes de déplacement, d'aide à l'hébergement, à la restauration, etc. Donc le revenu social de formation existe. Et d'ailleurs, les jeunes qui sont stagiaires sur les chantiers et qualifications de deuxième chance que j'évoquais tout à l'heure peuvent bénéficier du revenu social de formation, s'ils sont bénéficiaires du RSA. Bon, ils ont du RSA, s'ils ont d'autres ressources, mais celui qui n'a rien peut bénéficier du revenu social de formation. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la question plus précise qu'évoquait la jeune fille à côté de moi, sur l'enseignement, on va dire l'enseignement initial, hein, ce que vous évoquez, il y a un tas d'écoles privées qui pratiquent des tarifs, moi je trouve ça complètement exorbitant, prohibitif, et régulièrement, enfin, mais tous les jours, hein, je peux vous dire, tous les jours, je reçois du courrier au conseil régional de personnes qui nous saisissent parce qu'ils sont, ils sont embarqués dans des histoires de formation coûteuse, des familles qui s'endettent, hein, pour que leurs enfants puissent suivre des formations dans des écoles privées, sachant donc qu'ils sont en marge de l'offre de formation que nous proposons dans le cadre du conseil régional. Donc là, il y a un vrai marché qui est particulièrement assez scandaleux. Moi, je vois passer des choses qui sont absolument hallucinantes.
Mais c'est-à-dire qu'on peut parler d'un marché de la formation.
Il y a le marché de la formation sur le privé. Alors, il y a tout un tas. Nous, on a toute une offre de formation qui est dans le cadre d'un marché public, sur lesquels se positionnent les organismes de formation, actions de formation financées par le conseil régional. Et puis, à côté, il y a des organismes de formation, des boîtes privées, c'est de l'entreprise, quoi, qui proposent elles-mêmes leur formation, hors programme régional de formation,
oui, en régulation,
font payer, voilà, bon, ça c'est autre chose. Pour votre dossier plus précis, où là effectivement vous avez identifié un établissement public, un lycée au Pays Basque, c'est ça, à Bayonne, hein, qui propose c'est le seul en Aquitaine, je pense, hein, qui propose la formation qui vous intéresse. Il existe des dispositifs au niveau du conseil régional pour aider justement les personnes à suivre des études dès lors qu'ils font le choix d'aller dans une formation qui n'est pas proposée à proximité de chez eux. Je crois que c'est plus de 50 km dès que la formation est proposée. Voilà. Donc, vous n'êtes pas toute seule perdue dans la nature. Votre conseillère de la mission locale, puisque vous avez un travail avec votre conseillère de la mission locale, devra se mettre en rapport avec la région. Mais il y a effectivement ce type d'aide au transport, à la mobilité, peut-être étudiée et prise en charge. Voilà. Dès lors qu'on est sur un établissement public. Hein,
très bien, Georgiana. Donc, tu vois, tu as eu une bonne rencontre et on va te donner évidemment le numéro du conseil régional. Mais évidemment, tu en parleras avec ta conseillère à la mission locale d'Haute-Garonne. Oui, Dominique.
Très brièvement, puisqu'on arrive à la fin, si Georgiana peut nous répondre. Une question. Vous êtes allé jusqu'au bac dans le génie mécanique, j'ai bien compris. Et vous, donc c'est quand même un investissement, quoi. Le bac, c'est quand même une valeur. Et vous changez, vous allez sur l'audiovisuel. Pourquoi ?
Eh bien, en fait, au début, je voulais faire un BTS, enfin une école d'ingénieur plutôt. Et j'avais pas un bon niveau en mécanique, spécifiquement en mécanique, mais pas en productique, mais mécanique. Donc, il y a mon professeur qui m'a dit, essaie quand même de tenter un BTS audiovisuel sur Bordeaux, peut-être que... Mais voilà, moi, ça fait depuis tant jeune que je suis passionnée de musique, donc j'écris mes propres textes, je fais quelques musiques, mais j'étais dans un groupe de rock avant, donc je connais un peu le métier, quoi. Donc,
ça m'a. Qu'est-ce que vous pensez de l'orientation ?
C'est dur quand même de s'orienter après un bac mécanique, mais j'ai la passion pour ça, donc ça m'intéresse. Donc, si ça m'intéresse, c'est que voilà, quoi. J'ai une envie, quoi.
Alors, merci Georgiana pour ta participation. On va passer à un autre témoignage. Simon, si tu veux bien nous rejoindre. Simon, voilà, tu vas pareil, même question que pour Georgiana. Tu vas nous expliquer ton niveau d'études, tes qualifications et où c'est que tu en es aujourd'hui. Et quels sont tes espoirs et vers quoi tu te diriges?
Moi, j'ai deux CAP en menuiserie. Donc, j'ai CAP menuiserie fabricant, menuiserie poseur. Et j'ai fait ça, mais sans vouloir faire ça. Le problème a été là. Donc,
l'orientation, problème d'orientation.
Problème d'orientation. J'ai pas trop eu le choix de faire ce que je voulais faire réellement. Et je savais vraiment pas aussi ce que je voulais faire à cette époque. Donc,
aujourd'hui, comment ça se passe?
Aujourd'hui, j'essaye de voir un petit peu ce qui pourrait m'intéresser. J'essaye de fouiller à droite à gauche. Je fais des formations. Mais là, Audio Radio, par exemple, j'ai fait des travaux saisonniers, j'ai touché un petit peu dans le bâtiment différents corps de métier. Enfin, j'ai essayé de voir un petit peu tout. J'ai fait de la vente, je suis allé un petit peu à droite, à gauche pour voir qu'est-ce qui pourrait me plaire. Et voilà, là.
Tu as une direction vers laquelle aller?
Mais ça serait plutôt un petit peu comme Georgiana. Moi, je fais un petit peu de musique, donc ça serait, si je pouvais m'orienter dans la musique, ça serait un petit peu ce qui me ferait plaisir, mais c'est toujours le même problème, ça demande de l'argent.
Oui, mais Catherine, alors peut-être deux futurs musiciens, c'est vrai qu'ils sont attirés vers plutôt l'audiovisuel. Quelque chose à dire en commentaire peut-être sur le parcours? Encore un problème d'orientation, là on voit pour le coup, ouais, deux témoignages. C'est vrai que peut-être la discrimination commence déjà à ce niveau-là.
Je crois que la discrimination, en fait, elle commence de manière très générale. Mm-hmm. C'est la chaîne qu'il faut voir. C'est éducation, mm-hmm. orientation, formation, mm-hmm. emploi. On est dans un système, bon, il est tard pour lancer le débat, on va pas le lancer, mm-hmm. mais pourtant, c'est une question de fond. On est dans un système en France où cette répartition-là, elle est très cloisonnée. Éducation, c'est éducation nationale. Formation, on arrive à la région. L'orientation, alors, plutôt, normalement, c'est éducation nationale, mais on voit bien que, mais sans lien forcément très étroit avec la suite du parcours. Donc, il est vrai que nous, en tant que, ça, c'est une vraie revendication qui est portée par les conseils régionaux, particulièrement par le président Alain Rousset aussi, c'est de travailler sur la question de l'orientation, d'avoir la compétence, orientation, formation, parce que on a aussi cette compétence développement économique qui est à l'autre bout de la chaîne.
Et qui nous permet
oui mais voilà non mais ça de toute façon ça fait partie des discussions sur lesquelles on est ouvert quoi c'est-à-dire que cette question elle mérite d'être posée mais non, sauf qu'elle est posée régulièrement par les c'est pas pour rien que nous avons une agence qui s'appelle Aquitaine Cap Métier en Aquitaine donc dont l'objectif est aussi de travailler sur l'information l'orientation parce que le cas de ce jeune homme est un cas parmi tant d'autres où on a des orientations subies plutôt que des orientations choisies. Ceci dit, jamais rien n'est définitif, parce qu'au moins vous avez un CAP, et ça c'est bien. Et puis, par notamment les dispositifs que j'évoquais tout à l'heure, chantier école, qualification, deuxième chance, on voit bien qu'il y a toujours capacité, de toute façon, quand c'est le bon moment, parce que c'est aussi une histoire de moment dans la vie. Peut-être qu'il y a un moment où c'est trop tôt, on n'est pas prêt, et puis si en face on n'a pas la bonne personne, qui finalement s'est décelée, la compétence est bien orientée, c'est des rencontres aussi. Hein. La vie, elle se construit bien à partir de rencontres aussi. Quand on est tous, si on fait un tour de table, on verra bien qu'à un moment donné, on a rencontré la bonne personne au bon moment. Bon, voilà. Donc, jamais rien n'est définitif. Et s'agissant plus particulièrement de votre cas, moi, je voudrais dire qu'il existe un dispositif qui s'appelle les bilans jeunes, qui est un dispositif financé par le Conseil régional. Et pour cela, qui est complètement gratuit, bien évidemment. Manifestement, donc, bon, dans ce cas, peut-être qu'il n'a pas été mobilisé en ce qui vous concerne, mais les dispositifs existent. Et ils sont à la disposition, ces outils-là, notamment des missions locales, qu'ils connaissent bien. Hein, et donc, il y a possibilité, les bilans jeunes permettent, c'est une initiative que nous finançons, et qui permet justement pour ce type de jeunes et pour le profil que vous avez, de se poser un moment et puis de reprendre un petit peu l'histoire, le parcours et puis d'évaluer ce que vous portez en vous, ce que vous avez envie de faire, ce que vous êtes capable de faire et puis à partir de là, travailler ensemble sur une nouvelle orientation. Voilà, parce qu'en France, on a un système où on demande aux gamins à 12 ans le métier qu'ils veulent faire. Et puis, voilà. Alors, dans d'autres pays, ils n'ont pas du tout cette façon-là de travailler.
Donc, ça, c'est important, Catherine, parce que se former tout au long de sa vie, c'est des fois se réorienter aussi.
Et puis, surtout, je crois que, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, ce qu'il faut vraiment retenir, moi, je ne cesse de le dire, c'est que jamais rien n'est définitif, jamais rien n'est gravé dans le marbre. Et que, encore plus maintenant, peut-être qu'il y a quelques années, on est toujours, y compris nous, on est toujours en questionnement perpétuel et voilà, donc il n'y a pas de souci majeur et d'inquiétude majeure à avoir. C'est ce moment-là de votre vie. Vous avez l'impression que vous cherchez un peu, vous allez trouver.
En tout cas, on te remercie Simon pour ce témoignage. Je vais vous demander juste un mot de conclusion parce que pour le coup, on a dépassé le format.
Juste une précision et quand même pour faire passer un certain nombre d'informations aux auditeurs. Donc, sachez que vous pouvez aller sur notre site internet.
Ah oui, n'oubliez pas de citer la liste des partenaires
aussi. www.plieaudegaronne.org. Vous avez effectivement l'ensemble des organismes ressources qui peuvent vous aider quand vous êtes face à des problèmes de discrimination. Donc déjà, vous avez une définition très précise et juridique sur notre site internet de ce qu'est une discrimination, les recours qui sont possibles, au civil, au pénal. Et vous avez les organismes qui font des permanences sur la rive droite. Donc vous avez la MJD, Maison de la Justice et du Droit, qui est située sur Lormont et qui fait des consultations gratuites sur rendez-vous. Notamment Alifs qui intervient aussi le mardi. Nous avons donc l'association Alifs, association de liens culturels, familial et social, qui intervient au CCAS de Bassens le mercredi matin de 9h à midi et au service de proximité de Senon le vendredi matin de 9h à midi. Nous avons aussi également un partenaire avec qui nous avons travaillé qui s'appelle Infodroit, qui est une structure spécialisée avec beaucoup d'avocats qui travaillent dans cette association. Ils interviennent sur Lormont, dans le cadre de la Maison de la Justice et du Droit, sur Floirac au Plomb à Relais CAF et sur Ambarès au local municipal. Donc vous avez des permanences. Vous avez également Boulevard des Potes qui est situé sur Bordeaux et qui peut également vous aider. Et pour, je pense notamment par rapport aux populations féminines, vous avez le CIDF, le Centre d'information aux droits des femmes et aux familles, et qui intervient particulièrement, alors outre les questions de violence et de violence conjugale sur lesquelles cette association est particulièrement active, elles assurent également des permanences sur les questions de discrimination, notamment par rapport au genre. Voilà, donc vous avez un certain nombre de relais sur le territoire qui peuvent vous aider sur ces questions-là. Voilà.
Merci beaucoup Marina Cossé de tous ces renseignements utiles. Peut-être un petit mot de conclusion, Catherine, Bruno, pour conclure cette première émission.
Moi, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à l'appel à projet et donc aujourd'hui d'avoir lancé officiellement, formellement, donc cette action, cet engagement d'eau de radio avec ses partenaires sur toute cette année 2011, sur la lutte contre les discriminations. Donc j'ai bien noté qu'aujourd'hui c'était la journée de lancement. Donc il va y avoir d'autres émissions et semaines. Moi d'ores et déjà, même si c'était pas forcément prévu et écrit dans le projet que vous nous avez soumis, que nous avons retenu, donc on va le construire comme ça autour de la table. Moi je souhaiterais finalement que peut-être il y ait au terme de cette année de travail ensemble, il y ait une émission de conclusion,
une émission de bilan.
Ici dans cette configuration là où finalement un an après on reviendra se dire tout ce qui s'est fait, tout ce que nous avons partagé, tout ce qui a fait bouger aussi, toutes les belles rencontres que vous allez faire, parce que je sais que vous avez un programme qui devrait vous permettre aussi de vous déplacer.
Bien sûr, et de
s'enrichir,
échanges. En termes de réseau.
Voilà, et donc, je pense qu'avoir une petite émission bilan-conclusion, revenir un peu sur l'année passée. Voilà.
Très bien, donc on prend rendez-vous donc pour le début de l'année 2012.
Voilà.
Pour faire l'émission bilan, justement, on réinvitera nos partenaires. Donc, on va les remercier encore une fois. Mais peut-être juste avant, on va rappeler on a fait souvent notion rapport à cette loi, donc contre la discrimination. Donc, on rappelle quand même que discriminer est un délit. Donc, on l'a vu, est un délit passible, donc de 3 ans de prison, 75 000 euros d'amende pour toute personne dépositaire de l'autorité publique et 150 000 euros d'amende pour les personnes morales. Donc voilà, discriminer est interdit par la loi, ne l'oubliez pas. En tout cas, on vous remercie. Donc, évidemment, on remercie Marina Cossé pour le PLI Haut-de-Garonne et le plan local pour l'insertion et pour l'emploi, directrice du PLI Haut-de-Garonne. On remercie évidemment Jacques Bouin, directeur de Haut-de-Garonne Développement. Nous remercions également Bruno Cibé, chargé de mission à la formation professionnelle à la région Aquitaine. Et bien entendu, nous remercions Catherine Vessy, vice-présidente du conseil régional d'Aquitaine, en charge de la formation professionnelle, mais aussi adjointe au maire de Lormont. Donc on vous donne rendez-vous dans un an. D'ici là, on aura l'occasion de se croiser, et bien évidemment, en tout cas, on vous remercie pour cette première mission, et on indique à nos auditeurs, nos auditrices, qu'à partir de la semaine prochaine, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site www.odoradio.net, ainsi que les 50 programmes qui seront diffusés cette année 2011. Voilà, donc n'hésitez pas à aller chercher sur notre site www.odoradio.net, et nous vous disons à jeudi prochain. Au revoir.